Voilà, je vous propose tout doucement de reprendre vos places. Nous allons poursuivre nos travaux. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, ce qui a dû être un très gros travail. Je voudrais déjà par avance présenter mes excuses auprès des personnes qui sont en charge de la traduction dans le cas où je parlerai trop vite, où je ne m'exprimerai pas assez clairement. Alors, ma communication d'aujourd'hui porte sur les effets du genre et devant le tribunal correctionnel et sur le sexe des magistrats en particulier. Et c'est une étude qui se base sur l'étude de comparution immédiate, de jugement rendu en comparution immédiate. Alors, pour dire tout de suite, un des résultats importants de l'étude, c'est que s'il fallait répondre à la question « Est-ce que les décisions des magistrats varient en fonction de leur sexe ?», la réponse serait « Oui », mais finalement dans une très faible mesure, le sexe n'étant finalement que l'une des très nombreuses caractéristiques qui peuvent entrer en ligne de compte dans un jugement. Et je pourrais dire, par exemple, que si l'on compare, si on identifie dans mon matériau les deux juges qui avaient finalement les manières de juger les plus différentes, en tout cas au niveau de la sévérité des peines, il y avait une femme qui était la plus sévère et aussi une femme qui était la moins sévère, ce qui fait que finalement on ne peut pas déterminer comment le sexe du juge pourrait déterminer le jugement. En tout cas, on ne peut pas se contenter de penser que ça serait des explications assez simples qui iraient dans un seul sens. Donc, les questions auxquelles je vais essayer de répondre seraient plutôt sous quelle forme et dans quelles circonstances le sexe des magistrats a-t-il un impact sur leurs décisions. Donc, je vais vous faire un exposé qui va se décomposer en quatre parties distinctes. Donc, dans une première partie, je vais revenir sur la littérature existante sur les déterminants du jugement lors du procès pénal, ce qui va me permettre de revenir sur mes principales hypothèses. Je vais ensuite revenir, donc ça sera le premier point de l'analyse, sur la comparaison des jugements rendus selon le sexe des juges pour montrer que les peines prononcées varient selon l'infraction reprochée aux prévenus. C'est-à-dire qu'il y aurait des infractions à l'encontre desquelles les juges femmes seraient plus sévères et il y aurait d'autres infractions à l'encontre desquelles ce seraient les juges hommes qui seraient plus sévères. Donc, dans la deuxième partie de l'analyse, je vais rendre compte des résultats d'une hypothèse d'un éventuel effet d'interaction entre le sexe du juge et le sexe des victimes des délits. Autrement dit, je vais essayer de voir si les hommes et les femmes jugent différemment selon que les victimes soient des hommes ou des femmes. Donc là, je me suis appuyé uniquement sur des affaires d'atteinte aux personnes, donc essentiellement des violences volontaires. Enfin, je vais revenir sur l'analyse des jugements rendus, donc des jugements rendus par les juges, selon le sexe du procureur. Pour moi, le résultat le plus intéressant de l'étude est que les peines varient en fonction du procureur présent à l'audience, et notamment en fonction de son sexe, puisque les peines sont assez nettement plus sévères quand le procureur est une femme. Alors, quand on se tourne vers les travaux français qui peuvent nous renseigner sur les déterminants du jugement devant le tribunal correctionnel, ça va assez vite, hein, puisqu'on peut en trouver à peu près 4 ou 5, et aucune ne porte sur la question du genre. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France a ignoré ce type de travaux ? En premier lieu, ils considèrent que les juges auraient des grilles d'interprétation des faits qui sont relativement similaires, ce qui s'expliquerait par le fait qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux, qu'ils auraient une socialisation scolaire et professionnelle qui favoriserait une communauté d'interprétation. Deuxième raison, l'accent a été mis dans les travaux français sur les phases qui précèdent le jugement, c'est-à-dire l'action des services de police et des magistrats du parquet, comme étant des étapes qui seraient davantage déterminantes de ce qui se passe en définitive et de l'ensemble du processus pénal. La recherche nord-américaine s'inscrit au contraire dans une tradition d'études du sentencing, c'est-à-dire des déterminants du jugement, que l'on peut distinguer schématiquement en deux types d'approches. Une première qui porte son attention sur les caractéristiques des prévenus et sur la manière dont ils sont jugés. Et il s'agit donc de travaux qui rendent compte notamment d'une inégalité de jugement selon la race, selon la classe sociale ou selon le sexe. Une seconde tradition d'analyse porte son attention sur l'effet des caractéristiques des juges sur les décisions qu'ils rendent. Cependant, et donc ce qui m'intéresse par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est que les traditions françaises et anglo-saxonnes ont cependant un point commun, c'est celui d'ignorer la place du magistrat du parquet à l'audience comme étant un acteur déterminant du jugement rendu. Alors, je précise que que c'est pas tout à fait exact ce que je dis, puisque dans un certain nombre de travaux nord-américains, on trouve quand même une prise en compte du magistrat du parquet, même si c'est quand même assez rare. Et je pense que aussi, il l'aborde plus dans l'analyse des peines demandées que de l'effet sur les peines rendues par les juges. Alors, dans le cas français, comment est-ce qu'on peut expliquer l'absence de prise en compte des magistrats du parquet ? C'est surtout en raison de la croyance selon laquelle tout serait joué en amont du procès. Et donc, de fait, il ne serait pas très utile de porter son attention sur les jugements rendus devant le tribunal correctionnel. J'exagère un peu, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près l'explication qu'on peut trouver. Dans le cas anglo-saxon, c'est au contraire la conviction de l'importance du juge qui empêche la prise en compte du magistrat du parquet comme étant déterminant, comme ayant un impact sur la décision qui est rendue. Or, il y a un ensemble d'éléments qui m'ont amené justement à remettre en question cette évidence selon laquelle le procureur présent à l'audience n'aurait pas d'effet sur les décisions rendues, ce qui m'a amené donc à étendre l'analyse des jugements, pas seulement en fonction du sexe des juges, mais aussi en fonction de l'ensemble des magistrats présents à l'audience, et donc ceux du parquet. Donc pour construire mes hypothèses quant à une éventuelle différence de jugement ou d'influence sur le jugement en fonction du sexe, je me suis appuyé donc sur la littérature scientifique nord-américaine, qui, elle, en revanche, est pléthorique. Alors, ce sont des recherches dont les résultats sont assez difficiles à interpréter, notamment parce qu'ils présentent des résultats différents, voire en certains cas contradictoires. On pourrait quand même trouver un point d'accord à peu près unanime sur le fait que s'il y a des variations de jugement selon le sexe, elles seraient d'ampleur très limitée. Ceci étant, je vais quand même relever différents travaux qui ont orienté ma propre recherche suivant trois axes distincts. En premier lieu, ces recherches indiquent qu'il faut se méfier des analyses qui cherchent à objectiver la différence de décision selon le sexe à partir d'une seule dimension. C'est notamment ce qui ressort de l'étude de Grulspoon et Welsh, dont la recherche montre que les femmes prononcent davantage de peines d'emprisonnement ferme que les hommes, mais qu'elles prononcent aussi davantage de relax. C'est-à-dire qu'elles seraient plus sévères selon un indicateur, mais aussi elles prendraient davantage en compte les droits de la défense suivant un autre critère. Un deuxième ensemble de recherches montre que s'il existe des différences de jugement selon le sexe, cette différence de jugement varie selon la nature de l'affaire. Il existerait des cas de figure pour lesquels les hommes seraient plus sévères, et d'autres où, au contraire, les femmes seraient plus sévères. Ces travaux montrent alors que, même si l'on observe bien souvent des décisions d'une sévérité moyenne à peu près similaire, cela ne signifie pas pour autant que les hommes et les femmes jugent de la même manière. Un troisième ensemble de travaux porte leur attention sur l'effet de l'identification du juge aux mises en cause ou aux victimes. Donc il y a plusieurs études qui ont montré que les juges sont généralement plus sévères à l'encontre des prévenus du même sexe qu'eux, ce que les chercheurs expliquent par le fait que ces infractions commises leur apparaîtraient d'autant plus incompréhensibles au regard de leur propre expérience de sexe. Mais ce sont aussi des travaux qui soulignent parfois l'ambivalence du phénomène, puisqu'ils montrent que le phénomène inverse peut avoir lieu. C'est-à-dire que ça peut favoriser la compréhension aussi bien que l'incompréhension, et se faisant des peines plus clémentes comme des peines plus sévères. Donc, Ça m'a amené à formuler trois questions auxquelles je vais essayer de répondre ici, donc ce que j'ai déjà un peu évoqué en introduction. Donc, une comparaison des décisions rendues par les juges hommes et femmes selon l'infraction reprochée aux prévenus, c'est une comparaison qui s'appuie sur l'hypothèse d'une socialisation différenciée selon le sexe et qui pourrait expliquer une sensibilité variable d'une infraction à l'autre. J'ai ensuite procédé à la comparaison des jugements rendus dans des cas de violence volontaire en croisant sexe des juges et sexe des prévenus. Cette comparaison s'appuie sur une hypothèse d'une identification différenciée des juges aux victimes selon leur sexe. Alors, c'est vrai que sur les hypothèses qui expliquent ce questionnement, il y a quand même des travaux qui n'indiquent pas forcément les mêmes résultats, donc c'est assez difficile de se situer par rapport à tout ça. Mais on aurait pu faire une première hypothèse que les femmes seraient plus sévères quand la victime est une femme, par identification. En revanche, est-ce que les hommes seraient nécessairement plus sévères quand la victime est un homme? C'est pas forcément évident. Ce qu'on peut notamment relever l'hypothèse paternaliste développée dans nombre de travaux féministes, selon laquelle les hommes auraient tendance à se montrer plus protecteurs à l'encontre des femmes, à considérer que les femmes devraient faire l'objet d'une protection, ce qui pourrait expliquer qu'ils seraient également plus sévères quand la victime est une femme. Et dans un dernier temps, j'ai procédé à une comparaison des décisions rendues par le tribunal correctionnel en fonction du sexe des procureurs. Et donc j'ai pu vérifier à la fois l'hypothèse d'un effet du procureur sur les décisions rendues, mais aussi de l'effet du sexe du procureur sur ces décisions. Donc sur le premier point, puisque les juges hommes et les juges femmes seraient socialisés différemment en fonction de leur sexe, on pourrait supposer qu'ils vont rendre des décisions différentes. On peut aussi poser une autre hypothèse, c'est qu'ils auraient avant tout une socialisation commune, parce qu'ils viendraient des mêmes milieux sociaux, parce qu'ils auraient été socialisés à l'université dans des sphères similaires, parce qu'ils auraient été également socialisés à l'École nationale de la magistrature, et enfin parce qu'ils auraient été socialisés au sein même de la magistrature. Donc dans ce cas-là, l'hypothèse serait plutôt que, puisqu'ils ont des dispositions communes, ils devraient rendre des décisions assez similaires. Alors, en première lecture, les résultats pourraient laisser penser que c'est la seconde interprétation qui prévaut, puisque on voit un taux de condamnation à la prison ferme qui est extrêmement similaire, indépendamment qu'il s'agisse des juges hommes ou des juges femmes. Et si les peines sont un peu plus sévères, c'est-à-dire pour des durées un peu plus longues quand il s'agit de femmes juges, la différence reste assez limitée. Cependant, quand on compare les peines prononcées selon le type d'infraction, on constate que les peines prononcées tendent à être plus sévères dans les affaires d'atteinte aux personnes quand le juge est une femme, alors que quand les juges sont des hommes, c'est dans le cas des atteintes aux biens que ces peines sont plus sévères. Alors, on pourrait faire un essai d'interprétation et en considérant que ceci peut s'expliquer par les rôles qui sont traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes. Donc, en premier lieu, les femmes sont davantage socialisées à prendre en charge le care, c'est-à-dire comme devant dispenser les soins quotidiens au sein de la sphère familiale, ce qui les disposerait à être davantage sensibles aux questions de santé et donc aux atteintes à l'intégrité physique. Les hommes sont au contraire socialisés à tenir un rôle de breadwinner, c'est-à-dire qu'ils ont pour fonction d'apporter les moyens économiques de l'extérieur du foyer vers l'intérieur, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils seraient plus sensibles aux infractions qui touchent à la propriété privée. Ceci étant, pour conclure sur cette question-là, oui, effectivement, on peut observer des différences en fonction de l'infraction selon le sexe, ce qui correspond tout à fait au modèle que je vous ai présenté ici, mais il faut quand même souligner que ce sont des effets qui restent d'ampleur assez limitée. Et notamment sur la question de l'effet du genre, j'ai notamment eu l'occasion d'étudier l'impact du sexe des prévenus sur les décisions prononcées, et l'effet est à ce niveau beaucoup plus fort, ce qui suggère que les juges ont des représentations genrées, des représentations même sexistes, qui orienteraient leurs décisions. En revanche, d'un juge à l'autre, quel que soit son sexe, il juge finalement de manière assez similaire. Alors, le deuxième point, c'est l'effet d'interaction éventuelle entre le sexe du juge et des victimes. Alors, il y a un constat que je fais, c'est que les peines prononcées par les femmes juges sont significativement plus sévères quand il y a au moins une femme victime que quand il n'y a que des hommes victimes. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'établir si oui ou non les juges hommes rendent des décisions d'une égale sévérité en fonction du sexe de la victime. Donc, il y a deux interprétations qui sont possibles à partir de ces résultats. Soit c'est le sexe des victimes qui ferait varier en premier lieu les décisions. C'est-à-dire que les juges seraient plus sévères dès lors qu'il y aurait une femme victime. Soit il s'agit d'un effet d'interaction entre le sexe des juges et le sexe des victimes, et que c'est ça qui expliquerait les variations de décision. Dans ce cas de figure, il y aurait quatre possibilités, quatre configurations de jugement différentes, les procès juge-femme-victime-femme, les procès juge-homme-victime-femme, les procès juge-femme-victime-homme et les procès juge-homme-victime-homme. Donc la conclusion la plus sûre que l'on peut faire à l'issue de cette analyse est que les peines prononcées varient en fonction du sexe de la victime, sans que l'on puisse dire avec certitude si cela varie aussi, s'il y a aussi un effet d'interaction avec le sexe des juges. J'en viens donc au dernier point de mon analyse, et c'est peut-être le résultat qui est le plus surprenant. Il y a une relation assez nette entre les décisions prononcées par le juge selon le sexe du procureur. De manière même assez surprenante, il semblerait que les procureurs présents à l'audience auraient davantage d'impact sur les jugements rendus que les juges eux-mêmes. Donc, quand le magistrat du parquet présent à l'audience est une femme, le nombre de mois fermes prononcés par le tribunal correctionnel est supérieur de 20% en moyenne à ce qui est prononcé quand le procureur présent à l'audience est un homme. Donc, à titre de comparaison, l'écart selon le sexe des juges est un peu supérieur à 10%. Un autre résultat mérite d'être souligné. Alors que pour les juges, j'avais constaté que les hommes se montrent plus sévères contre les atteintes aux biens et que les femmes se montrent plus sévères contre les atteintes aux personnes, la comparaison selon le sexe du procureur montre que les décisions sont plus sévères quand une femme procureure est présente à l'audience, et ce, quelle que soit l'infraction qui est reprochée au prévenu. Donc on a deux schémas distincts. D'un côté, les décisions des juges qui diffèrent selon le sexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les penser uniquement en termes de sévérité. De l'autre, des décisions qui sont inégalement sévères selon le sexe du procureur présent à l'audience. Alors, comment peut-on interpréter ce phénomène? Je pense qu'il faudrait encore travailler plus longuement sur la question, mais mon hypothèse, c'est que cela s'explique par la symbolique masculine de la justice pénale et à plus forte raison des fonctions du parquet. Je pense qu'il est assez important de souligner que la féminisation de la magistrature n'a pas remis en cause cette symbolique de la justice pénale comme étant un symbole masculin de l'autorité étatique. C'est-à-dire que la main de la justice pénale, c'est la main qui donne des gifles, c'est pas la main qui vient soigner. Le parquet est encore plus spécifiquement un symbole masculin, ce qui se traduit notamment dans notre étude, par une proportion d'hommes supérieure dans les fonctions du parquet, 55% d'hommes dans les fonctions du parquet, alors qu'ils ne représentent que 45% des juges de notre étude. Je rappelle aussi au passage, Anne Boisjol avait publié il y a une vingtaine d'années une étude qui montrait également que les femmes se tournaient moins fréquemment que les hommes vers les fonctions du parquet. Autrement dit, être une femme dans la magistrature, et à plus forte raison dans les fonctions du parquet, c'est occuper une fonction d'homme. Or, un certain nombre de recherches qui portent sur la place des femmes dans les métiers masculins, dans les métiers dits masculins, comme par exemple la police, ont montré que les femmes tendent à surinvestir leur rôle afin de donner des preuves de leur légitimité. C'est-à-dire qu'elles se sentent tenues de montrer qu'elles sont légitimes dans leur poste davantage que les hommes, ce qui peut les amener en certaines circonstances à surjouer le rôle qu'on leur demande de jouer. Appliqué à la magistrature, être une femme procureure implique en quelque sorte d'être plus procureur que les procureurs. Or, puisque les procureurs tendent à demander des peines plus fortes que celles qui sont prononcées, et généralement que celles qu'ils attendent, les femmes procureures tendraient à demander des peines encore plus sévères. Donc, en conclusion, on peut dire que le fait d'être un homme ou une femme n'est pas d'un effet nul sur les décisions prononcées. Les socialisations différenciées contribuent à expliquer les décisions qu'ils prennent et les interprétations qu'ils font des faits qui leur sont soumis. Et en même temps, il faut aussi insister sur le fait que il y a bien d'autres socialisations qui ont un impact sur leur interprétation des faits et qui peuvent aussi expliquer les variations dans les jugements rendus devant le tribunal correctionnel. Alors, je dirais que finalement, quand on regarde les données, on voit qu'effectivement, on peut constater des différences dans les jugements rendus et en même temps, on constate que il y a parfois, d'un juge à l'autre, des différences qui peuvent être d'une ampleur extrêmement forte et qui ne s'expliquent pas du tout, ou en tout cas pas uniquement, par leur appartenance de sexe. Et enfin, voilà, je reviens sur le dernier point, c'est cet effet du procureur sur les décisions rendues. Les peines sont effectivement plus sévères quand il y a des femmes magistrates du parquet présente à l'audience, et on observe aussi que l'effet du sexe du juge et du sexe du procureur tendent à se cumuler, si bien que les peines sont particulièrement sévères dans les cas d'atteinte aux personnes quand il y a une juge femme et une procureure femme. Et il y a une différence là qui est la plus élevée de toutes les différences que nous avons pu constater. Je vous remercie. J'en ai fini.
Voilà, merci beaucoup Thomas Léonard.